De retour aux amateurs de sport, dans une vingtaine de minutes, Jérémy Filosa sera avec nous pour nous présenter le point de presse du nouveau défenseur latéral droit de l'Impact de Montréal, Bakary Sagna. Mais avant, notre expert sport business est avec nous en studio. Vous le suivez sur Twitter, à commercial Real Ray Lalonde. Vous l'écoutez sur sa balado-diffusion Focus, du lundi au vendredi. Ray Lalonde, bonsoir.
Salut Derek.
Ray, t'as entendu Claude Raymond, l'entrevue de Claude Raymond, et je voulais te poser ça comme première question, mais en 1968, les Expos de Montréal, qui avaient pas joué un match encore dans la Ligue nationale de baseball, Claude est à l'emploi, est un joueur des Braves d'Atlanta. Les Expos demandent la permission aux Braves d'amener Claude à Montréal et qu'il l'embarque sur le téléphone pour vendre des billets.
C'est pour une autre équipe.
C'est-tu assez incroyable, ça?
Ouais. Écoute, j'ai que des souvenirs impérissables de Claude Raymond comme ambassadeur ultime. Ça prenait un gars comme Claude Raymond pour être le premier, si on veut. Et encore aujourd'hui, comme tu le sais, parce que toi, tu le connais mieux, mais moi, j'ai eu le plaisir de l'avoir au Canadien quelquefois comme invité. Et c'est un gentleman, c'est un peu le Jean Béliveau du baseball pour Montréal. Vraiment, là, non seulement parce qu'il était Québécois francophone, mais il a toujours joué son rôle, autant à la diffusion télé-radio, autant dans tous les efforts communautaires qu'il a fait. Alors, ça m'a pas surpris, quand tu m'as raconté ça, de savoir que même jouant pour une autre équipe, il allait redonner à Montréal. Alors, merci, au fond, du cœur, de la part de tout le monde au Québec, pour ces premiers gestes-là. Mais on ne reverra plus jamais une chose pareille. C'est impossible de penser que quelqu'un serait prêté à une autre organisation. Mais à l'époque, rappelle-toi, il fallait que les Expos fassent quelque chose de vraiment québécois.
Et le coût pour une équipe d'expansion, il y en avait eu deux, San Diego et Montréal, 10 millions de dollars.
Ben, la comparaison, Derek, là, honnêtement, le Toronto FC, dans leur entrée en MLS, ça coûtait 10 millions. L'équipe en vaut plus de 200 millions aujourd'hui. L'Impact avait coûté 40 millions, en vaut au moins 150 ou plus, c'est la moyenne de la Ligue. Alors, les Expos, à l'époque, à 10 millions comme franchise, pense-y deux secondes, 10 millions pour une franchise d'expansion, qui aujourd'hui, la dernière équipe de baseball à être vendue, ce sont les Marlins de Miami, à Derek Jeter et son groupe, à 1,1 milliard de dollars. On est combien d'années plus tard de ça? 50 ans. Regarde le multiple qui s'est fait. La valeur des équipes continue d'augmenter. Mais c'était quand même ridiculement cher à l'époque, 10 millions de dollars. Parce qu'il fallait que les gens se mettent ensemble, se regrouper pour payer une facture comme ça.
Monsieur Bronfman, plus tôt, disait que lui, il était prêt à embarquer lorsque Jerry Snyder l'avait appelé pour le maire drapeau. Il dit, pas de problème, moi j'embarque. S'il y a un toit, s'il y a un stade avec un toit, tu peux-tu croire que 50 ans plus tard, c'est le même débat?
C'est encore le débat pour le tennis, c'est encore le débat pour le baseball, c'est encore le débat pour plusieurs villes. Un toit, parce que là, on est tellement à la merci de la météo. Il y a une chose qui est claire, c'est que les souvenirs du parc Jerry de tout le monde, c'était quand même un parc qui maintenant est devenu le stade IGA, là, si on veut le regarder comme ça, là, 50 ans plus tard. Ça sert encore, bravo. Mais à l'époque, c'était un parc de baseball des plus simples possibles. C'est ça qu'on voyait, puis c'est ça qu'on reconnaît aujourd'hui encore. Alors, le stade olympique l'a eu son toit pendant un certain temps. Et besoin d'un autre toit actuellement.
Ray, j'ai parlé avec M. Bronfman, comme t'as entendu l'entretien. Lui, il était pas impliqué côté baseball, opération baseball, mais plutôt côté marketing. Au début, là, les Expos, 68, 69, marketing, il faisait bien ça. Toi, t'es un petit bout, là, t'es un petit cul là, dans ce temps-là. Ben, t'as des souvenirs, toi, là, de t'avais une connexion à cette équipe-là, malgré que tu ne pouvais pas aller les voir.
Non, mais c'est une connexion émotive, puis c'est pour te parler, puis à tous nos auditeurs, de l'importance de ce qu'on appelle en anglais un « touch point ». C'est-à-dire un petit point de contact une fois au moment le plus pertinent dans la vie d'un jeune. Je ne pouvais pas aller au parc Jerry. J'étais à Trois-Rivières. C'était un peu loin à l'époque. On n'avait pas les moyens pour se déplacer comme ça. Je suivais les matchs des Expos, même depuis 69. Je m'étais abonné comme membre des Jeunes Expos. Ça nous donnait des billets à 50 sous dans les estrades populaires, si jamais on voulait y aller.
Oui.
On avait toujours le droit d'acheter ces billets-là. L'autre bar de la clôture, il y avait Jonesville d'un bar avec la piscine, puis il y avait l'autre estrade populaire de l'autre côté. C'était juste pour remplir les gradins. Mais j'ai jamais eu le privilège d'y aller au parc Jerry, mais j'avais ma carte dans mes poches à chaque jour. Puis ce petit geste-là des Expos, d'offrir une carte fan club, si on veut, aux tout jeunes, ben moi, ça m'a marqué parce que je suis devenu un fan inconditionnel à jamais. Il y a plusieurs occasions comme ça où les équipes sportives ont une chance de connecter dans le cœur des petits et de rester là longtemps s'ils sont généreux et authentiques. 50 ans plus tard, c'est encore la recette du succès. C'est de connecter de façon pure et simple avec les jeunes.
Cette carte-là, tu l'as gardée dans ton porte-monnaie, dans tes poches pendant des années.
Oui. Et puis jamais été aux Expos Parc-Jarry, jusqu'à temps qu'il arrive au Stade Olympique. Mais je te le dis, je m'en rappelle encore comme c'était hier. Il fallait remplir un petit coupon, il fallait l'envoyer au bureau des Expos, il fallait attendre dans la poste à chaque jour pour courir à boîte à lettres, attendre que la carte rentre, la détacher dans le petit pointillé qui était avec et la mettre dans ses poches fièrement, comme si on venait de recevoir une carte d'assurance maladie. C'était vraiment une question de fierté, Derek, et une connexion émotive qui est restée.
Écoute, ils ont très bien fait ça au début. Ils avaient compris quelque chose.
Non, mais 50 ans déjà, il y avait un fan club.
Ouais.
Honnêtement, avec les Canadiens, on a lancé un fan club durant mes années, entre 2001 et 2011. On n'avait pas de fan club avant. Les Canadiens de Montréal n'avaient pas de mascotte. Il n'y avait pas de fan club. Il n'y avait pas de plein de choses. Alors, une des choses qu'on a fait avec les Canadiens pendant ces années-là, c'est de rajeunir la marque, de reconnecter avec les jeunes. Ça, c'est grâce à George Gillette.
Je vais te parler de marque, justement, parce que Nike, comme tu connais la compagnie, elle paie quand même très bien ses athlètes. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont payés pour porter les vêtements de Nike, utiliser l'équipement de Nike, que ce soit Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods. Mais quand on regarde la finale du British Open, gagnée par un athlète Nike, Francesco Molinari, je regarde le championnat des joueurs de la PGA, Brooks Koepka, puis avec Tiger Woods qui sont là le dimanche avec toutes les caméras, toutes les images braquées sur eux, que ce soit Simona Halep qui vient de remporter la Coupe Rogers, athlète Nike, Nadal. Nike... C'est payant pour eux autres quand leurs athlètes comme ça, ils gagnent des championnats ou ils sont là toute la journée là, sur nos écrans.
Ben, il y a plusieurs points dans ça. T'sais, on a parlé la semaine dernière, toi et moi, là, de l'espèce de commercialisation des athlètes, puis comment les athlètes essaient de se trouver un peu l'entente commerciale, puis des partenaires qui investissent en eux. Bon, Nike est le maître incontesté sur la planète sportive, tout sport confondu, ce qu'on appelle, si tu me permets l'expression, des endorsements. C'est-à-dire appuyer les athlètes. Athlètes d'élite, il y a des gars comme Jordan, LeBron James, et ainsi de suite, qui ont payé des millions et des millions. Mais il y en a d'autres. Derek, ils fournissent l'équipement, les vêtements, sans les payer nécessairement. Mais au moins, ce sont des ambassadeurs Nike de plus qui sont tout à fait heureux de recevoir le produit. Et là, quand on parle de produit, on parle quand même de milliers de dollars de produits selon le besoin de l'athlète. Quand on arrive dans un tournoi comme la Coupe Rogers, puis on voit 2, 3, 4, 5 filles vêtus sensiblement aux mêmes couleurs. C'est les produits Nike pour la cause, pour l'événement. Seulement quelques grands athlètes, dont Raphaël Nadal, Roger Federer autrefois, Tiger Woods bien entendu, tu comprends, Rory McIlroy aujourd'hui, eux ont leur propre ligne de vêtements.
Oui.
Ils sont non seulement offerts une ligne à eux où ils designent, ils participent dans le look, mais ils sont aussi payés grassement pour avoir ces vêtements-là. Alors, c'est pour ça que Nike, sur la planète mondiale, détient à peu près 39 % du marché mondial du vêtement sportif, en comparaison de Adidas, de Under Armour et même de Jordan Brand, qui est une sous-division de Nike, qui en détient à peu près 9-10 %. Alors, c'est quand même une bataille féroce pour ce marché-là, qui est très lucratif. Et pourquoi Uniqlo a investi en Roger Federer? C'est parce qu'ils pensent que Roger Federer va les aider à percer le marché américain dans le vêtement casual sportif et permettre aux gens d'acheter du Uniqlo plutôt que du Nike.
Mais ça a une valeur. Par exemple, Nike, que tu vois Koepka qui remporte le championnat des joueurs, toutes les photos qui font le tour de la planète de lui avec le trophée. Nadal, la même chose. Simona Halep, on voit le swoosh de Nike sur la chemise, sur la casquette. Cette visibilité-là, comme tu sais, c'est combien ça vaut de la pub, tu vaut la première page du journal, la section des sports, l'Internet, la télévision, c'est des dizaines et des dizaines et des centaines de millions de dollars de valeur.
C'est la visibilité média gratuite. Ils payent l'athlète, ils savent que l'athlète va être très visible. Il y a leurs agences internes et externes qui calculent chaque seconde de visibilité à chaque endroit. Il y a un multiple en publicité. Ton coût par mille qui te dit combien de milliers de téléspectateurs ou visionnaires qui regardent et ils multiplient ça par la valeur obtenue. Mmh. Alors, facilement, dans un tournoi comme ce week-end où les caméras étaient rivées sur Tiger et Brooks Koepka, ben là, c'est des centaines de milliers de dollars dans quelques minutes seulement où le gars tient le trophée pendant 10, 15, 20 secondes, puis on a la caméra braquée sur lui. Soudainement, l'investissement dans Brooks Koepka et Tiger Woods en vaut la peine pour eux. Parce que ça se traduit directement par des ventes. Puis on va parler de Tiger Woods un petit peu.
Ah oui, ajoute ça, des choses, d'écoute.
Une des choses de Tiger Woods, quand j'ai lu surtout sur une des entreprises qui a cru encore en Tiger, c'est-à-dire Bridgestone, les pneus Bridgestone.
Oui.
Dès qu'ils ont signé Tiger, puis il a commencé à bien jouer à partir du mois de décembre dernier, en prévision de la saison 2008, leurs ventes de pneus ont augmenté de 30 %.
Wow.
Grâce à la présence de Tiger Woods comme ambassadeur. Tiger Woods tire très large, mais il fait bouger les audiences, il fait bouger aussi les portefeuilles et les cartes de crédit.
Il vend des pneus, Tiger Woods.
Il vend des pneus.
Les cotes d'écoute, plus haut total en 9 ans avec Tiger, comme ça, le dimanche. Tu parles sur ton podcast, sur ta balado-diffusion Focus, tu parles de l'impact instantané de Tiger Woods. C'est incroyable.
Dès qu'on le voit sur le tableau principal un dimanche, Derek, les gens changent leur horaire. Immédiatement, les gens ajustent ce qu'ils vont faire pour le reste de la journée au cas. Fait qu'on reste toujours proche de la télé.
Ouais.
Donc, la télé est allumée. Les codes d'écoute augmentent. 70 %, c'est énorme. La dernière fois, c'était quand Tiger jouait justement en 2009. Wow. Alors, pour te dire là, comment ça fait... Pardon, en 2008. Ça fait une épopée qu'on n'a pas vu un gars individuellement affecter les audiences télé, peu importe la discipline sportive. Et Tiger vend. Il vend le golf, il vend le goût de jouer. Les gens se sont probablement tout de suite après dirigés au champ de pratique pour aller frapper des balles, après avoir vu Tiger jouer comme ça. Mais c'est des dollars instantanés et une injection d'énergie et de commerce pour la business du golf quand Tiger Woods va bien. Alors, ce qui s'en vient, c'est la Ryder Cup dans quelques semaines.
Oui.
Puis la présence de Tiger Woods dans la Ryder Cup versus ne pas être sélectionné.
Ça change tout.
Ça change tout. Et c'est pour cette raison qu'il est assuré de participer parce que équipe USA ne peut pas passer à côté de l'occasion d'avoir Tiger Woods dans
la. Il joue bien. De toute façon, il joue bien.
Il mérite.
Il mérite. Hey, écoute, nouvelle, c'est un petit peu moins le fun, mais c'est la NCAA et l'abus de pouvoir dans le football américain. Tu as parlé de ça aujourd'hui. Sur ton podcast, mais parle-nous de ça, ce qui est arrivé, l'événement tragique, évidemment, dans le décès d'un jeune homme de 19 ans.
C'est pas la première fois qu'on entend un décès d'un jeune garçon adolescent dans un camp d'entraînement de football l'été aux États-Unis. Alors, comprenons tout de suite qu'il fait plus chaud qu'ici, et même si on est déjà choyé d'un été merveilleux en termes de chaleur, aux États-Unis, il fait souvent 40 degrés à tous les jours. Et les jeunes jouent au football en pleine journée, en préparation de leur camp d'entraînement. Je parle pas juste du niveau universitaire, mais du niveau secondaire, les high school américains. Il y a souvent des jeunes qui sont pas conditionnés suffisamment bien, hydratés suffisamment bien, et dans certains cas, Derek, qui ont des petits problèmes médicaux qui ont jamais été détectés. Alors, c'est pas la première fois qu'un jeune décède sur un terrain de football sans avoir eu le contact. On va d'abord mettre les choses au clair.
Oui.
Cependant, l'Université de Maryland vit dans un environnement, ce que j'appelle toxique et un peu malade. Et on a lu depuis qu'ESPN a enquêté sur le dossier, tous les incidents qui se déroulent depuis quelques années, qui ont été dissimulés et cachés par l'école. Aujourd'hui même, là, le président de l'université a un peu déclaré que l'université est coupable et responsable du décès du jeune homme. Là, ça, c'est un bon geste. Ça prend du courage pour le faire, pour ne pas aller batailler pour rien. Ils vont assumer la responsabilité. Ça va leur coûter très cher. Ils ont les moyens pour le payer. Mais une chose qui est claire, c'est qu'ils vont payer des dizaines et des dizaines de millions de dollars à la famille. Ça remplacera jamais le jeune garçon. Mais il y a une chose qui est claire, je ne pense pas que ce coach-là va être avec cette université-là de sitôt. Ils ont déjà remercié l'entraîneur de conditionnement, qui est non seulement suspendu, mais là, maintenant plus avec l'école. Les thérapeutes médicaux responsables aussi d'avoir attendu avant de traiter le jeune. Mais la culture de l'environnement va changer. Le problème, c'est que c'est une culture qui existe dans bien des endroits.
Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Ça va envoyer des messages, un message très puissant à plein d'autres institutions qui font la même chose un peu, parce que c'est pas la première fois qu'on entend qu'ils gouvernent selon leurs propres lois.
Ça revient à ton abus de pouvoir. Mm-hmm. Ce sont des dirigeants sportifs, coachs et directeurs de sport plus importants que les présidents de l'université.
Ouais.
Des gars,
ils sont payés des millions.
Un président
et des
d'université
millions.
Peut gagner 300-400 000 $, ce qui est un très bon salaire. Le coach de football veut en gagner 7,5 ou 8.
Ouais.
Alors, comment expliquer un peu cette espèce de renversement de priorité. Mais c'est parce que trop de focus, trop d'énergie, trop d'attention sur la victoire d'Eric et sur l'argent. Pas assez sur le développement humain du jeune. Parce qu'on est tous en compétition, on veut tous être sur la coche, on veut, pour avoir participé à ça moi-même à Penn State quand j'étais là, ce que je peux te dire, c'est que c'est très important, ces programmes-là, pour le financement de l'université, mais parfois ça dépasse la norme et on se retrouve avec une crise, un scandale tragique. Et c'est ce qui est arrivé. L'autre qui est arrivé il y a juste 2 semaines, c'est un des entraîneurs adjoints à Ohio State, incident de violence conjugale,
oui,
caché par les autres entraîneurs, dans une situation avec notre époque où c'est très délicat, cette situation-là. Le coach a été remercié, mais les entraîneurs, dont Urban Meyer, l'entraîneur-chef, a caché la situation aux autorités et lui aussi est suspendu. Et là, on est à la veille de débuter la saison, puis on a des entraîneurs-chefs qui doivent être imputables et tenus responsables et possiblement perdre leur job.
Écoute, c'est ça, quand ils ont trop de pouvoir, quand c'est trop gros, il y a trop d'argent, on s'entend, c'est des milliards et des milliards de dollars dans ces campus américains-là, et la victoire, c'est important. Les protéger, hein, on a souvent rigolé dans la NFL, protéger le Shield, mais ça, c'est ça la culture qui existe, qui existait ou qui existe encore dans les collèges américains.
Puis une des choses que je te dirais pour conclure ce sujet-là, Derek, là, c'est qu'il y a quand même une responsabilité qui revient aux parents.
Oui.
Parce que tu peux pas me faire croire que avec 2-3 ans de climat brutal, d'humiliation, de condamnation des jeunes, où on leur insère la crainte et la peur et l'intimidation à chaque jour, qu'il n'y a pas de parents qui savaient ce qui se passait. Mais je vais te dire pourquoi que les parents n'ont pas réagi. C'est parce qu'ils veulent pas perdre leur bourse d'études. Ils veulent pas sacrifier le risque d'être obligé de payer. Alors, au risque de pas être à l'université puis d'être obligé de le transférer ailleurs et pas obtenir une bourse, les parents acceptent. Alors, le jeune qui a 18-19 ans, là, il est soumis à quelque chose qu'il ne devrait jamais avoir à faire face dans sa vie. Certainement pas dans une institution qui l'accueille pour son propre développement. Puis dans ce cas-ci, il ne peut pas retourner à la maison parce qu'il est décédé. Tragique.
Tragique. Merci beaucoup, Ray Lalonde. Vous le suivez sur Twitter, en commercial, Real Ray Lalonde. Toujours des bonnes histoires. Merci beaucoup, Ray.
Merci, Derek. Bonne soirée.
On fait une pause, nous, et au retour, avec grand plaisir, Jérémy Filosa sera avec nous. C'était le point de presse du nouveau défenseur latéral droit de l'Impact de Montréal, Bakary Sagnan. C'était au centre Nutrilait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Jérémy nous donne tout ça après ces messages.